l'été.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient, RFI vous donne la parole. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur les tenues vestimentaires à l'université. Faut-il les encadrer, les réglementer? On en parle ce matin après la décision prise au Gabon d'interdire les jupes moulantes trop courtes, les bustiers décolletés plongeants ou encore les pantalons déchirés, les pantalons sans ceinture, les coiffes féminines pour les hommes. Ces tenues sont désormais interdites dans les amphithéâtres de la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université Omar Bongo, des tenues qui, selon la doyenne de la faculté, sont susceptibles, je cite, de heurter les bonnes mœurs et d'inciter à des attitudes répréhensibles. Alors faut-il y voir une atteinte à la liberté individuelle, comme le dénoncent certains étudiants qu'on a entendus dans le reportage de notre correspondant à Libreville? Qu'en est-il dans votre pays, dans votre université? Vos témoignages, et ils sont nombreux, nous arrivent sur les réseaux sociaux, la page Facebook, le compte WhatsApp, mais aussi au standard. On vous attend, on a envie de vous entendre de vive voix, 33 9 693 693 70. Mais d'abord, comme tous les matins, vos questions pour mieux comprendre l'actualité, des questions pour commencer. Après la décision de l'Organisation internationale de la francophonie de suspendre sa participation au processus électoral en Guinée, Dioulde, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Conakry, dans la capitale guinéenne. Vous êtes ce matin, sans le savoir, Dioulde, le porte-parole de nombreux auditeurs qui ont posé exactement les mêmes questions que vous nous posez ce matin.
Oui, Juan.
On vous écoute.
À quelques jours du double scrutin législatif et référendum constitutionnel en Guinée, l'EF a annoncé suspendre sa participation au processus électoral. Alors Juan, pourquoi l'OIF a-t-elle attendu 6 jours avant le vote pour suspendre sa participation?
Effectivement, c'est la question que beaucoup d'auditeurs se posent. Carole Valade, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour Dioulde.
Vous êtes l'un des correspondants de RFI à Conakry. Dans 4 jours se tiendra en Guinée un double scrutin, les législatives, couplé donc à un référendum constitutionnel. Rappelons que la majorité de la société civile et de l'opposition politique n'a eu de cesse ces derniers mois de dénoncer l'irrégularité du processus. Et lundi, coup de théâtre, l'OIF est donc venu confirmer ses doutes, déclarant dans un communiqué qu'elle ne pouvait plus soutenir le processus électoral de dimanche prochain, en l'absence d'un consensus national sur le nombre d'électeurs. Et c'est vrai que ce retrait, à moins d'une semaine du vote, est assez surprenant.
Absolument. Le président de la CENI, Maître Salif Kébé, déclarait même ne pas en avoir été informé. Alors, du côté du RPG, le parti au pouvoir, on s'étonne évidemment du calendrier, on n'hésite pas à parler d'agenda caché, tandis que l'opposition, elle, y voit une confirmation de ce qu'elle a toujours dénoncé. Bon, en tout cas, c'est une surprise et surtout un coup dur pour le processus, comme l'a dit le Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana sur nos antennes. Alors, c'est vrai que l'OIF, elle mène ce travail d'assistance électorale depuis 2018 et qu'elle se retire quand même assez tardivement du processus, d'autant que les chancelleries occidentales, elles avaient déjà prévenu depuis un bon moment qu'elles ne valideraient pas l'élection avec ce fichier, fichier dans lequel globalement rien ne va, me disait un diplomate, en particulier le nombre total d'électeurs qui est selon lui très élevé par rapport aux statistiques officielles sur la population. Alors il pourrait y avoir même, dit-il, plus d'électeurs que de personnes majeures dans le pays.
Alors justement, Carole Valade, que reproche exactement l'OIF au fichier électoral? On parle de 2,5 millions d'électeurs problématiques.
Oui, et ça fait quand même environ 30% du corps électoral, donc voilà, c'est pas négligeable. En fait, il s'agirait, selon la CENI, de personnes qui sont dans le fichier, mais qui ne sont pas passées devant la machine biométrique lors des opérations de révision. En clair, donc, on n'a pas vraiment vérifié qu'elles existaient pour de vrai. Et ça, c'est justement la première recommandation du rapport d'audit sur le fichier, dont l'OIF devait suivre l'application. Alors, il faut rappeler que la CENI a choisi un délai quand même très court, une 20aine de jours seulement, pour réviser les listes électorales, alors que ça n'avait pas été fait, en fait, depuis 2015. À titre d'exemple, on a retrouvé dans le fichier l'ancien Premier ministre Jean-Marie Doré, qui est notoirement décédé en 2016, mais aussi voilà, un grand nombre de possibles mineurs, de doublons potentiels. Moi, j'ai pu vérifier certains cas. Le président de la CENI, sur ça, en fait, répond qu'il est au courant, bien sûr, de ce problème, mais qu'en fait, c'est la loi qui ne lui permet pas de radier ses électeurs, qu'en fait, il aurait fallu modifier le code électoral pour le faire, et que les partis politiques, en fait, ne se sont pas entendus là-dessus. Donc, Voilà, il n'a pas les moyens légaux de le faire.
Oui, le Premier ministre disait hier au micro de Christophe Boisbouvier, ni l'opposition, ni la mouvance présidentielle ne sont parvenus à s'entendre à l'Assemblée nationale pour modifier donc le code électoral. Vous avez une autre question, Duldé ?
Oui. Quelle pourrait être la crédibilité des résultats sans le soutien de l'OIF ?
Carole Valade.
Alors oui, ça pose problème, hein, clairement, parce que bon, l'OIF, c'est quand même une institution qui est plutôt connue pour sa tolérance, ou en tout cas la prudence de ses déclarations, selon toujours notre diplomate, alors que la CENI sur ça, bien sûr, affirme que ça n'aura aucune incidence sur le processus, mais c'est clair qu'ici, voilà, ça n'aide pas à rassurer les Guinéens quant à ce scrutin qui est déjà fortement contesté, et dans un contexte de tension exacerbée à quelques jours du vote. Alors, ça accroît aussi l'isolement de la CENI. Aujourd'hui, il ne reste plus que la CDAO et l'Union africaine qui n'ont pas encore pris position sur le sujet. D'ailleurs, à ce sujet, on est sans nouvelles d'éventuels observateurs qui pourraient ou non être déployés par ces institutions dimanche.
Et on suivra évidemment avec vous, Carole Valade, le déroulement des élections législatives et du référendum constitutionnel. Duldé, bonne journée à Conakry. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir contactés. Il est déjà 9h17 à Paris. Le temps passe vite. Senkoun, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les éditeurs de Guinée.
Merci à eux, et on les salue évidemment au passage. Vous avez des questions sur le procès qui a commencé lundi à Londres, procès de Julian Assange.
Ah oui, Juan, effectivement. Une demande d'extradition des États-Unis a été formulée contre Julian Assange pour avoir divulgué des informations top secrètes sur l'armée américaine. Une audience vient de s'ouvrir à Londres pour décider s'il doit être extradé ou pas. Alors, la question est de savoir en ce moment, quelle est la stratégie de défense des avocats de ce mania de l'informatique Julian Assange ?
Oui, c'est vrai qu'à la fin de cette procédure judiciaire, Julian Assange saura s'il sera extradé vers les États-Unis où il risque, rappelons-le, jusqu'à 175 ans de prison. Olivier Tesquet, bonjour.
Bonjour.
Journaliste, spécialiste des questions numériques à Télérama et co-auteur avec Guillaume Ledy de « Dans la tête de Julian Assange » publié aux éditions Actes Sud. Senkoun le rappelait à l'instant, Julian Assange est accusé d'avoir révélé 700 000 documents confidentiels, des documents secrets américains. Les États-Unis le font passer pour un espion. Concrètement, quelle est la stratégie des avocats de Julian Assange pour éviter son extradition aux États-Unis ?
Alors déjà, merci pour cette question parce qu'effectivement, c'est un point particulièrement important dans cette première semaine d'audience qui se poursuivra, on le rappelle, jusqu'au mois de mai et peut-être encore plus loin si jamais il devait y avoir des procédures d'appel. Je dirais qu'il y a deux axes majeurs. Le premier, c'est d'abord de réussir à ne pas dissocier le corps de Julian Assange du corps des journalistes, quelque part, dans la mesure où aujourd'hui, les faits pour lesquels il est poursuivi concernent une action journalistique et une collaboration avec des grands médias internationaux en publiant donc tous ces documents confidentiels en 2010. Or aujourd'hui, les arguments qui sont présentés par les autorités britanniques et donc aussi par les autorités américaines, c'est que Julian Assange n'est pas un journaliste et notamment parce qu'il a publié un certain nombre d'informations non expurgées mettant en danger la vie de plusieurs personnes sur le terrain, d'informateurs, de soldats, etc. Allégations qui, pour l'instant, après 10 ans d'enquête, n'ont toujours pas été prouvé. Donc il y a évidemment ce discours très très fort de l'équipe juridique d'Assange pour insister sur le fait qu'il est bien journaliste, en tout cas pour les faits qui sont ici concernés, qu'une extradition serait un danger pour la presse et pour la liberté d'informer. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que Reporters sans frontières, par exemple, est très mobilisé. Et puis il y a un deuxième axe qui est, on va dire, de présenter cette procédure comme un procès politique. Hein. C'est ce que dit notamment Balthazar Garzón, l'ex-juge anticorruption espagnol qui mène un peu son équipe de défense depuis plusieurs années et qui, lui, estime qu'on est dans un acharnement et où Julian Assange n'est pas traité comme un justiciable normal et notamment parce qu'il n'a pas accès comme il le devrait à ses avocats, et donc les droits de la défense sont ici bafoués.
Oui. Olivier Tesquet, j'ai vu également que les avocats d'Assange s'appuient sur l'état de santé de leurs clients.
Oui, parce que c'est un élément assez important depuis quelques années. On va dire que depuis 2015, des voix de plus en plus nombreuses s'inquiètent de la dégradation de l'état de santé de Assange, et notamment parce que son séjour prolongé dans l'ambassade d'Équateur à Londres l'a quand même considérablement affaibli. Donc aujourd'hui, on a, je crois, plus de 150 praticiens, dont certains lui ont rendu visite à plusieurs reprises, et qui l'ont examiné, et qui estiment qu'on est face à un homme qui est à la fois affaibli physiquement, mais qui est aussi affaibli psychologiquement. Et il faut rappeler que quelques semaines avant le début des audiences, il s'est présenté à la barre pour une audience préliminaire, on va dire, et il a eu toutes les peines du monde à décliner son identité.
Ouais. Et vous le disiez tout à l'heure, le procès de cette semaine n'est que la première étape d'un long processus. Il y aura deux autres semaines d'audience au mois de mai. Et si jamais la justice britannique accepte d'extrader Julian Assange, le journaliste pourra faire appel. Il pourra même aller jusqu'à la Cour suprême, voire la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. Donc voilà, c'est une procédure qui prendra peut-être plusieurs années. Merci Olivier Tesquet. Senkoun, on a répondu à vos questions?
Oui, merci beaucoup Juan, et surtout la situation guinéenne actuellement est très préoccupante et je m'en soucie, oui.
Vous en souciez, on a donné longuement la parole aux auditeurs hier pour parler justement du contexte guinéen, on y reviendra forcément dans les prochains jours. Olivier Tesquet, je rappelle votre ouvrage, Dans la tête de Julian Assange, c'est publié aux éditions Actes Sud. Bonjour Bernard Ourcade.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste de l'Iran. On s'est permis de vous appeler ce matin. On a reçu des questions concernant les récentes élections législatives iraniennes. C'était vendredi dernier. Bonjour Alseni. Alseni, êtes-vous là?
Allô, oui, vous m'entendez?
Ah, je vous entends très bien. J'adore quand la technologie fonctionne. Vous êtes à l'abbé, soyez le bienvenu. On vous écoute avec Bernard Ourcade.
Merci. Les conservateurs ont remporté les élections législatives en Iran avec un taux de participation historiquement faible de 42%. Comment expliquer un si taux faible de participation?
Ah, vous avez raison d'insister sur ce faible taux de participation, 42,5% pour être précis. Bernard Ourcade, c'est le plus faible taux de participation jamais enregistré dans l'histoire de la République islamique. Que s'est-il passé?
Il se passe qu'il y a 40 ans, d'abord, la République islamique fonctionne. Donc, il y a une certaine usure du pouvoir. Il y a surtout le fait que, depuis 2018, les États-Unis exercent un embargo économique total sur l'Iran et que la crise économique, donc, est gigantesque. Cet espoir de développement est exclu pendant les 5 ou 10 ans qui viennent pour remettre le pays à flot, puisque, après l'accord sur le nucléaire 2015, les gens pensaient que l'Iran sortait du trou et, brutalement, une déception énorme. Mmh. Et donc, tout le monde en veut à tout le monde. Et les plus radicaux, comme les plus réformateurs et ouverts disent il n'y a pas de solution, il n'y a aucune solution. Donc, il y a des élections législatives, pourquoi pas? À quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Et donc, tout le monde en veut à tout le monde, et ce qui fait que les Iraniens sont désespérés, découragés, ils n'ont pas participé à ces élections, qui sont en même temps un peu factices, dans la mesure où presque tous les opposants réformateurs ont été éliminés par le Conseil constitutionnel iranien.
Oui, d'où la grande victoire des conservateurs et des ultra-conservateurs. Le Parlement comptera 200 conservateurs et ultra-conservateurs sur les 290 sièges, donc très forte présence, ce qui suscite d'ailleurs d'autres questions, Alseni.
Quelles conséquences cette victoire des conservateurs peut avoir sur la politique étrangère iranienne, notamment envers les États-Unis?
Ah, et vous pensez évidemment, et tout le monde pense, à l'accord sur le nucléaire. Est-ce que le fait que les conservateurs soient désormais ultra-majoritaires fera que dans les prochains mois, l'Iran sortira de cet accord?
C'est possible. En Iran, la question nucléaire est importante, la question des relations aux États-Unis est importante, et ce que l'on craint dans un premier temps, c'est que les radicaux fassent du jusqu'au boutisme en parole et fassent en sorte que l'Iran s'approche de sortir de l'accord sur le nucléaire, je dis des traités de non-prolifération, c'est-à-dire des engagements internationaux que l'Iran a déjà signés, et montrant qu'ils ont l'intention, ça prendra plein temps, de se relancer dans une politique militaire et d'avoir une bombe atomique. Ceci n'est pas un danger militaire, mais un danger politique. Si l'Iran se retire de cela, de cet accord, ça mettra toute la communauté internationale contre l'Iran. Donc, ce qu'on peut craindre, c'est que les conservateurs, et certains n'ont pas tellement d'expérience du pouvoir, sont prêts à en découdre, ont exagéré le vocabulaire contre Israël, contre les États-Unis, et que cela amènera une espèce de jusqu'au boutisme négatif. Inversement aussi, il y a un certain nombre de conservateurs qui sont là pour essayer de reprendre les choses en main et dire « soyons assez forts, nous sommes forts, vous le voyez, nous sommes dangereux éventuellement, et donc nous sommes capables de discuter avec les États-Unis. Ouais. » Il y a parmi ces conservateurs des gens qui sont un peu rationnels et savent qu'il ne faut pas jouer avec le feu.
Merci de votre analyse. Bernard Ourcade, on s'excuse un peu pour le réseau téléphone qui n'était pas d'excellente qualité. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'Iran. Alseni, bonne journée à vous. Merci de nous avoir contactés. On va terminer avec des questions sur les violences intercommunautaires à New Delhi. Aimé nous a contactés de Bamako au Mali. Bonjour Aimé.
Oui, bonjour, Juan.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Oui, bonjour, RFI, bonjour à tout le monde. La capitale indienne est secouée par des violences contre les musulmans. Et ces violences font suite à une loi qui empêche les réfugiés musulmans d'accéder à la nationalité indienne. Mmh. Alors, pour l'instant, vu que ces émeutes ont lieu dans le nord-est de la capitale, ne peut-on pas craindre qu'elles s'étendent sur l'ensemble du territoire ?
Alors, c'est vrai que depuis dimanche, plusieurs quartiers de New Delhi sont le théâtre de scènes de guérilla urbaine. Le nouveau bilan des violences fait état de 32 morts et plus de 200 blessés. Ingrid Terwatt, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste de l'Iran.
De l'Inde.
De l'Inde, excusez-moi, de l'Iran. On parlait de l'Iran il y a quelques instants. Spécialiste de l'Inde, évidemment. Ces violences, elles se concentrent exclusivement dans certains quartiers très précis de New Delhi, dans le nord-est exactement de cette mégapole. Pourquoi d'abord ? Qu'on comprenne bien.
Alors, ce sont pas des violences spontanées. Il faut vraiment comprendre qu'il s'agit de violences orchestrées par des miliciens, des gens affiliés au mouvement extrémiste hindou, dans des quartiers qui ont été remportés par le BJP, le parti au pouvoir, lui-même issu d'une milice nationaliste hindoue, lors des élections de Delhi d'il y a quelques jours. Donc tout ça n'est pas fortuit. C'est une façon pour les partisans des nationalistes hindous de s'affirmer dans leur fief. Voilà, donc ça explique pourquoi c'est dans ces lieux précis. Alors pour répondre à la question de votre auditeur de Bamako, on peut toujours évidemment craindre un embrasement et une flambée de violence et des pogroms qui s'étendent à plus grande échelle. C'est vrai, selon toute vraisemblance, parce que ça, c'est déjà arrivé dans le passé. C'est déjà arrivé en 1984 contre la communauté sikh, c'est déjà arrivé en 92-93 contre les musulmans et à nouveau en 2002 au Gujarat contre les musulmans. Eh bien, on peut penser que ces pogroms vont être limités à la fois dans l'espace et dans le temps. En tout cas, on peut l'espérer.
Mmh. Allez-y. Ouais.
L'Inde est un territoire très grand et ce qui est certain, c'est que le BJP et ses miliciens et ses groupes de sympathisants vont tout faire pour mettre au pas les musulmans. Ce n'est pas une stratégie d'élimination de toute la population musulmane, c'est quand même plus de 250 millions de personnes, mais c'est une stratégie d'élimination symbolique, politique, économique et d'élimination ou d'affaiblissement moral. Et c'est ça qui est en train de se passer.
L'idée finalement, c'est l'Inde aux hindous.
Tout à fait. Ouais. L'idéologie de les Hindutva, qui est l'idéologie que porte le gouvernement actuel depuis presque 100 ans, en fait. Enfin, cette idéologie, elle existe depuis presque 100 ans. Ce gouvernement et cette idéologie veulent une Inde hindoue, alors que c'est contraire à la Constitution. L'Inde est un pays laïque et pas un pays hindou, même si les hindous sont majoritaires en Inde. Mmh. Et c'est ça qui se joue en ce moment, c'est le suprémacisme hindou, d'un côté, qui est au pouvoir, contre l'idée de l'Inde garantie par sa constitution. Ouais.
Il nous reste à peine une minute. Aimé a encore une question à vous poser, Ingrid Terwatt.
Oui, effectivement, le gouvernement nationaliste de Narendra Modi, peut-il reculer sur cette loi ?
Peut-il reculer sur cette loi ? Une loi qui, rappelons-le, facilite l'attribution de la citoyenneté indienne à des réfugiés, à condition qu'ils ne soient pas musulmans. Est-ce qu'on peut y envisager un rétropédalage ?
On peut toujours tout envisager, mais c'est complètement improbable, parce que d'abord il a voulu cette loi, et qu'elle s'inscrit dans l'idéologie dont je venais de vous parler, de l'hindoutva, d'une Inde hindoue, d'une Inde aux hindous, où les musulmans ne peuvent être que tolérés, que des citoyens de second rang. Donc il n'a aucune raison de reculer devant une loi qu'il a voulu et qu'il a défendue et qu'il continue de défendre.
Merci infiniment Ingrid Terwatt d'avoir pris quelques minutes ce matin pour répondre à Aimé. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques et bien spécialiste de l'Inde. Demain, entre 7h et 8h temps universel, RFI sera en édition spéciale pour vous permettre de comprendre l'évolution de l'épidémie de coronavirus qui se propage dans le monde. Dans la foulée, nous répondrons à toutes vos questions sur les risques, les précautions qu'il faut prendre, les moyens mis en place pour endiguer cette épidémie. Donc appelez-nous dès maintenant. Il y a déjà plusieurs dizaines de questions sur la page Facebook de l'émission. On vous attend au standard 33 9 693 693 70. On revient dans 10 minutes et on parlera des tenues vestimentaires à l'université.